du 3 au 13 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Les Goules, avec Podcast, Dalton Telegram, Yann Perrault, Laurence Nerbonne, Saratoga, Gap Paquet, Violette Pie, Pontex, Cliché, Philippe Braque et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de SiriusXM.
Danscussion à la radio, là où l'on parle de danse, de culture et d'art du mouvement.
Avec les artistes, les travailleurs culturels, les spectateurs, les amoureux du spectacle.
Tout le monde en parle.
Tous les mardis de live sur choc.ca.
Maudit que je m'endors. Je pense que j'ai besoin d'un café. Téléphone intelligent, dis-moi où est le Tim Horton le plus proche.
Fuck le Tim Horton.
Quoi?
Va donc au Salonger à la place au Salonger. Le café est vraiment bon, tu vas l'apprécier. C'est pas juste un jus de boîte que tu bois en attendant qu'il soit l'heure de tomber dans le jean à cochon.
Situé au niveau métro du pavillon Aquin, le Salonger, c'est la place pour te sustenter.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast. Musique. Découverte. Sur choc.ca. La musique au rendez-vous. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes.
Bonjour, bienvenue à Pop en stock, l'édition 116. Ce soir, c'est le spécial Halloween. L'année dernière, si vous vous souvenez, on a fait un spécial sur le Rocky Horror Picture Show. Je vous invite à aller l'écouter si ça vous intéresse. Mais ce soir, on va parler d'un réalisateur, d'un scénariste, d'un producteur, d'un musicien, d'un compositeur et d'un monteur tout en un qui a fait un film qui s'appelle Halloween. Donc, c'est vraiment d'actualité. Je parle bien sûr de John Carpenter, né le 16 janvier 1948 et un peu à la retraite depuis 2010, même peut-être depuis 2001, même depuis plus longtemps que ça. Mm-hmm. John Carpenter nous a donné plein de films cultes, dont Halloween, Big Trouble in Little China, They Live, The Thing, et plein d'autres dont on va parler ce soir. Et pour m'accompagner, j'oublie tout le temps de me nommer, je m'appelle Hélène Lorrain, et pour m'accompagner, Samuel Archibald.
Bonsoir Hélène.
Bonsoir, professeur en littérature et un des fondateurs de Pop en Stock. Boris Nonveillé.
Allô.
Qui, c'est la première fois que tu viens.
Je suis vraiment
très contente qu'on t'ait recruté parce que tu as une super de bonne voix dans
question cinématographique.
Non, mais moi, je t'ai vu à l'officiel, il y a quelques années, tu avais parlé de RoboCop 2.
Oui.
Et c'était.
Quelle bonne idée.
Magistral.
Oui, c'était vraiment le fun.
Et Philippe Saint-Germain, qui, comme ça fait quelques fois déjà, tu viens.
Oui, troisième fois.
Chercheur à Figura et professeur au cégep antique, oui. Si je ne me trompe pas. Merci. Et on a aussi Maxime Robin, qui est notre metteur en onde, qui est un gars du silence, mais ce soir, il va parler de musique.
Oh que oui!
La musique de John Carpenter, qui est vraiment extrêmement importante dans ses films. D'ailleurs, est-ce qu'on peut écouter un petit extrait de... Je pense juste ça nous donne peur, là. Juste... Oh my God!
J'ai des frissons à chaque fois.
Donc, c'est... Oui?
On entend presque le bruit des feuilles mortes au travers, ce qui me fait toujours rire parce qu'une des anecdotes de tournage les plus célèbres autour d'Halloween, c'est le fait que, bien sûr, à Dunfield, supposément en Illinois,
oui, oui.
A été recréé. Ben, c'est pas une ville qui existe, mais je veux dire, on a recréé l'Illinois en Californie. Donc, on a bel et bien tourné en Californie où il n'y a pas des montagnes de feuilles mortes quand okay, même au mois de novembre. Donc, la plupart des... Ben, fin octobre, début novembre. Donc, la plupart des feuilles mortes qu'on voit dans le film, dans le fond, sont juste des props, les gens se promenaient avec une bonne partie du budget qui est juste installer des feuilles mortes.
Ah, j'avais trouvé, moi je l'ai vu, je l'ai revu pour la recherche, je l'ai vu hier matin, parce que des films d'horreur, je couche ça le matin.
C'est bon,
et,
c'est une bonne idée.
Oui, oui. Et je trouvais qu'il faisait noir, pas tard justement, il faisait soleil comme assez tard, comme dans, je trouvais dans le pacing de la journée, puis comme, ah, OK, c'est peut-être parce que c'est la
c'est le soleil de Californie, mon ami.
Et voilà. Donc, justement, Samuel, on va commencer avec toi. Tu veux nous parler du genre slasher?
Oui, oui. Pour moi, c'est ce qui me venait en tête en premier. Donc, comment Halloween, en fait, avait été vraiment avait servi de modèle, finalement. Mm-hmm. Donc, d'abord, avait aidé à une certaine cristallisation, parce que quand on fait l'histoire du genre slasher, en général, on va trouver des ancêtres un peu plus loin. Mais je pense que, historiquement, c'est vraiment à partir d'Halloween que le trend va partir et va durer quand même un certain temps. Donc, bien sûr, on va penser à Psycho et Peeping Tom dans les précurseurs. Il y a certains films des années 70 qui vont être, après ça, rétrospectivement intégrés au genre du slasher. Bon, je pense à Texas Chainsaw Massacre, en fait, qui n'est pas vraiment dans le canon, mais qui va se transformer en franchise par la suite, etc. Mais c'est vraiment à partir d'Halloween que un certain nombre de traits que je vais essayer de détailler ici, bon, vont s'imposer et vont surtout s'imposer comme étant répétables et imitables. Et donc, je pense que le premier de ces traits-là, par rapport au giallo, entre autres, bon, le film de maniaque italien qu'on mentionne souvent comme précurseur du genre, c'était le caractère un peu impersonnel du tueur, de ses motivations, de ses objectifs. Hein. Donc, si on fait abstraction déjà de la première séquelle qui est Halloween 2, où tout à coup on trouve une généalogie à Laurie Strode, ce qui est particulièrement frappant dans Halloween, c'est comment tout à coup, ce tueur-là, après un crime originel, donc à 5 ou 6 ans, il tue sa sœur. À partir du moment où, pour la nuit de l'Halloween, il sort de l'asile, tout à coup, tout ce qu'on a, c'est une espèce de machine à tuer.
Obsessionnel, il est complètement fixé sur Laurie.
C'est ça. Et donc, il est là, il tue, et je pense que ça va beaucoup aider. Je pense que même eux ne réalisent peut-être pas tout de suite à quel point ça peut faciliter l'imitation, mais bien sûr, à partir du moment où le tueur n'est pas dans une vengeance personnelle, comme il l'était souvent à la fois dans le roman policier ou dans les films de maniaque plutôt des années 70, ça permet un développement. Le tueur machine, le tueur obsessionnel, va devenir assez vite un tueur franchise d'une certaine façon. Donc, on peut le ramener.
C'est un first person slasher, presque, avec la longue scène où, bon, de derrière le masque. Oui. C'est une façon d'investir le personnage.
Absolument. Ben ça, je vais y revenir au niveau des traits stylistiques, mais je pense qu'il y a deux traits très importants qui vont être répétés ad nauseam, mais donc bien sûr le POV, justement la question du point de vue. Puis je pense que les deux traits stylistiques importants, c'est celui-là et la question du hors-champ. Je pense que c'est beaucoup un film sur le hors-champ Halloween qui va constamment revenir à ça, c'est-à-dire la menace se tient dans l'ombre, dans ce qui est montré et caché à la fois à l'écran. Je pense à la superbe scène de la haie, entre autres. Hein. Donc, Laurie va voir le tueur au bout de la haie. Le temps qu'il soit là, il y est plus. Elle le voit dans le jardin. Donc, il y a toujours cette idée-là de ce qui est présent et absent en même temps. Bon, ce qui est facile à décliner sur un mode psychanalytique aussi, j'y reviendrai, mais je pense que c'est très, très important et ça va être imité à satiété. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très important là-dedans et qui sera jamais... Je pense que la question du point de vue va être reprise. Souvent, la question du hors-champ, un peu moins, parce que c'est toujours fait de façon un peu moins subtile ensuite chez les imitateurs. Je pense qu'on va passer d'une espèce d'habitation du hors-champ à une espèce de focalisation sur le jump scare ou simplement la surprise, donc de ce qui vient carrément du hors-cadre à ce moment-là. Ce qui m'apparaît très, très important, et là, bon, je m'appuie un peu sur l'une des deux théoriciennes que je vais nommer, donc les grandes théoriciennes du slasher, donc Vera Dyka, dans ce cas-là, qui écrit Game of Terrors, The Films of the Slasher Stalker Cycle. Donc, pour elle préfère l'idée de stalker film à slasher film, mais peu importe. Donc, pour elle, parce que ça en dit plus, l'idée de stalk, justement, sur ce que ces films-là sont. Mais elle va vraiment identifier, donc, un certain nombre de figures, de motifs qui sont récurrents et qui forment vraiment un schéma narratif qui revient dans tous ces films-là. Et on voit comment Halloween vraiment va le cristalliser parce qu'on est parfaitement là-dedans. C'est-à-dire, va nommer en premier l'idée d'une situation initiale où soit la communauté et où, d'une certaine façon, la communauté agit mal, la communauté commet un crime, une injustice, donc l'idée des sins of the father, si on veut, et où le tueur expérimente un trauma. Donc, on est dans le secret du passé, dans Halloween, on est vraiment dans cette idée-là. Donc, Michael Myers, à 5 ou 6 ans, il a tué sa sœur après l'avoir surprise en train de commettre, bien sûr, cette chose horrible qu'est le sexe. Donc, dans le présent de la narration, toujours toujours. Le deuxième événement toujours répété dans ces films-là, c'est l'événement présent, l'anniversaire, bon, qui va réactiver le tueur. Donc, dans ce cas-ci, ça s'est passé à l'Halloween, il y a un Halloween qui revient, donc on reparle. Donc, le tueur se remet en activité et le tueur, bien sûr, vont, en trois, procéder à ses œuvres, procéder au massacre, ce qui fonde un autre trait important du slasher, qui était déjà là, plutôt esthétiquement que purement du côté des effets spéciaux chez Halloween, mais vraiment l'esthétisation du meurtre, hein, qui va bien sûr être mise en question et beaucoup critiquée ensuite, surtout chez les descendants de Halloween, surtout par rapport à la misogynie, évidemment. C'est-à-dire qu'on va bien, bel et bien fonder le meurtre en spectacle. Chez Carpenter, ce qui est particulier, si on regarde, le body count n'est pas tellement élevé dans Halloween, et c'est plutôt des effets de mise en scène aussi. C'est vraiment un effet de comment on resserre et on relâche le suspense. C'est pas particulièrement gore, par exemple. Ça va l'être beaucoup plus par la suite, déjà y compris dans Halloween 2 lui-même. Bien sûr, quand on va arriver dans les Friday the 13th, tout ça, quand on est geek de slasher, ce qui est fascinant, c'est qu'on va finir par avoir cette expression comme dans celui-là, il y a un beau meurtre. Donc, on est vraiment dans. Ouais. Bon, ça a l'air d'une contradiction. Ouais. Oui, oui, tu l'as, mais donc cette scène. Ouais. Cette esthétisation. Et ensuite, on va passer dans le trait le plus important, donc qui se décline en plusieurs, mais la présence d'une héroïne, hein, donc très, très important, qui va, en plusieurs points, donc s'apercevoir des meurtres. Donc, il y a quelqu'un qui devient témoin, apercevoir le tueur également, combattre et incapacité maîtriser le tueur et va survivre, mais j'aime bien la phrase de Dyka qui est « The Oren survives, but she is not free ». Et donc, c'est vraiment toujours un peu cette fin-là. Et bon, on se rappelle bien la fin d'Halloween, donc cette idée que, bon, elle est là, réussit à survivre à une première attaque de Michael Myers. Le Dr. Loomis arrive et finalement, bon, tire sur Michael Myers.
À six
reprises. Il tombe dans le jardin. Ensuite, bon, le temps qu'on ait cette petite conversation très, très signifiante sur cette idée, hein, « Twas the boogeyman, as a matter of fact, it was », il est parti, et bien sûr, on revient au hors-champ. Ce qui est assez fascinant dans ces derniers plans-là, c'est qu'on a une série de plans fixes d'endroits à demi-éclairés où Michael Myers...
Où ça
s'est passé, et où il pourrait être encore, parce qu'on entend la respiration en voix. Donc là, on est vraiment dans cette idée-là, et je sais pas si on imagine à ce moment-là toutes les suites qu'il va avoir, mais on est déjà dans l'effet de cette terreur-là, c'est-à-dire on vient de mettre quelque chose derrière la porte, en dessous du lit, dans le derrière le rideau de douche, etc., etc.
Oui, ça ouvre.
On s'éloigne aussi à chaque shot. On va de la maison, ensuite quartier, ensuite avec la respiration. Donc, il est partout.
C'est ça, finalement. Exactement. Il est partout, et à partir du moment où il devait se trouver, bien, on peut s'en méfier dans toute la ville, et on revient exactement dans cette question de l'impersonnalisation. C'est-à-dire, à ce moment-là, la menace, elle est partout. La menace, bien sûr, elle est dirigée vers nous aussi, spectateurs. Donc, cette idée de l'héroïne amène mon troisième point important, c'est-à-dire, pour moi, dans Halloween, le fait qu'on a imposé deux figures hyper importantes, c'est-à-dire le tueur lui-même, hein, le tueur fétichisé, le tueur iconique, qui a une apparence bien particulière qu'on s'amuse à montrer, ce qui n'était pas nécessairement le cas dans le Giallo, le film de massacre, ou plutôt, comme on cache une identité, on avait tendance à laisser le tueur hors champ le plus possible. Tout à coup, il va avoir cette idée, bon, de quoi il a l'air, comment il est. Dans Halloween, c'est déjà très, très subtil, parce que quand même, on essaie de le faire exister et non exister.
C'est ça, souvent, les premiers plans adultes, sa tête, on la voit pas, on voit juste, vraiment juste sa combine, son corps, finalement.
Oui, et il y a quelque chose de fascinant aussi, donc on a noté souvent dans le générique, au fait où on crédite Michael à 6 ans, mais donc les crédits sont donnés pour Michael adulte, on dit juste « the shape ». Donc il y a jamais, c'est comme si on reconnaissait même pas que la créature qui est sortie de l'asile était Michael Myers, c'est de « shape ». Donc il y a quelque chose d'intéressant là, d'un point de vue jungien, d'une certaine façon, là, c'est vraiment l'ombre, tu nous en parleras. J'imagine, ou pas?
Oui, oui, tout à fait.
C'est bon, parfait. Et donc, la figure peut-être encore plus importante que le tueur, donc, qui a été éminemment analysé, c'est celle de la Final Girl, hein, donc de vraiment de la survivante, qui a été beaucoup théorisée par Carol J. Clover dans Men, Women and Chainsaws, Gender in the Modern Horror Film. C'est assez fascinant parce que ça nous dit en même temps, ça revient à un élément très très stylistique finalement. C'est-à-dire que la Final Girl, comme l'explique Clover brièvement, c'est vraiment cette idée que dans le film d'horreur, dans le film de slasher, il va avoir un transfert, littéralement, et presque au sens psychanalytique, d'identification. C'est-à-dire que ces films-là commencent en nous montrant un tueur réactivé, en nous faisant adopter très souvent son point de vue. Hein. C'est-à-dire qu'on va voir souvent, à travers les yeux du tueur, ces adolescents, ce groupe de jeunes qui a été choisi et qui va être bientôt décimé. Et donc, pendant toute une partie, on est appelé à s'identifier au tueur. Et à un moment, il va avoir une espèce de switch qui est presque pour elle féministe involontaire d'une certaine façon. Elle sait pas trop pourquoi on en arrive là. Ben, elle a une théorie là-dessus, mais on arrive à ce moment où tout à coup, on nous demande plus d'assumer le regard du tueur, mais d'assurer ce regard révélateur de l'héroïne. Hein, cette héroïne, bon, on l'a souligné, qui est souvent virginale, donc qui a pas à subir le côté très, très puritain de ce tueur-là, oui, oui. Qui sont toujours, bon, anti-drogue, anti-sexe, etc. Et ce que dit Clover, d'une certaine façon, c'est que, comme l'héroïne va être celle qui va être stalkée, littéralement, le plus longtemps, donc elle doit être une héroïne parce qu'elle doit être soumise à ce qu'elle appelle une terreur abjecte, et bien sûr, on n'accepterait pas qu'un homme soit soumis à une terreur abjecte dans un cinéma traditionnel, évidemment. Donc, on doit la faire...
la féminiser, là.
Oui, on doit la féminiser. Ben, la féminiser, et en même temps, comme on veut la faire échapper aux stéréotypes de toutes les bimbos et les pêcheuses qui vont être décimées, c'est que souvent on la rend assez androgyne et on donne cette possibilité-là tout à coup. Et c'est ce qu'elle dit, Clover, que au milieu du film, à partir du moment où elle se rend compte des meurtres, où elle confronte le tueur et comprend, elle, que le tueur est là et se met en mode confrontation, souvent il va avoir vraiment une masculinisation qui va aller dans le sens de son androgynie, c'est-à-dire elle va s'emparer d'une arme, elle va, très souvent c'est ça, et finalement se mettre à confronter le tueur sur un mode qui est plus du tout celui de la jeune pure et virginale qui fait ses devoirs du départ. Donc là, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a un changement thématique, c'est-à-dire on a cette figure-là et en même temps, le film va vraiment construire ce moment où finalement, on est dans un combat des points de vue. On part avec le point de vue du tueur, on finit avec le point de vue de la Final Girl, qui va toujours d'une certaine façon triompher, mais d'un triomphe, bon, assez ambigu, donc comme le soulignait Taika, ce qui nous fait toujours revenir un peu sur les conclusions de Clover, mais c'est intéressant parce que c'est une des premières apparitions, je trouve, dans les études de la culture populaire, de cette idée de moment féministe involontaire, d'une certaine façon, c'est-à-dire que dans un genre aussi racoleur d'exploitation que le slasher, qu'il arrive quelque chose où là, on est... Ben là, tout à coup, on demande à un public essentiellement masculin, à un male gaze, de s'identifier à un personnage féminin. Et c'est comme, d'une certaine façon, on peut pas y échapper. Hein. Donc, c'est vraiment ce moment où on reste complètement là-dessus. Donc, Laurie Strode, évidemment, qui reçoit l'aide du Dr. Loomis dans ce cas-là, mais qui est vraiment dans cette situation de Final Girl originale. Donc, ce qui est intéressant aussi, donc, c'est que ça nous amène à cette espèce de dette symbolique énorme installée depuis Halloween, mais qui va se jouer dans tous les slashers. Bon, une dette stylistique, d'abord, à l'égard de Hitchcock, parce que c'est bien sûr, bon, on en parlait tout à l'heure un peu, son film le plus Hitchcockien, Carpenter, et c'est assez frappant comment, dans la filmographie de Carpenter, d'une certaine façon, Halloween... Et pas un cas à part, parce que, bon, on reconnaît son univers, mais c'est quand même un film beaucoup moins baroque que la plupart de ses films au niveau thématique, du scénario, de ce que ça explore. C'est aussi son film où, stylistiquement, il est probablement le plus concentré. Hein? C'est-à-dire, c'est un petit film lean and mean, dirait-on, en anglais, où il n'y a rien qui dépasse, ce qui n'est pas très Carpenteresque, finalement, qui fait beaucoup des films où ça dépasse, il y a de l'idée à moitié réalisée, il y a bon, des trucs un peu sur le coin de la table, ce qui fait le charme, par ailleurs, de l'affaire, mais Halloween est vraiment dans un trip plutôt presque de Palmaesque pour l'époque, de relecture de Hitchcock, et dans sa dette, bon, bien sûr, symbolique, à l'égard de Psycho, où il y avait vraiment, dans ce cas-là, un cas de casting aussi, c'est-à-dire on a fait exprès de caster Jamie Lee Curtis, qui est la fille de Janet Leigh, donc qui jouait dans Psycho, donc on est vraiment dans une filiation assumée. Donc on crée notre Scream Queen moderne à partir de la Scream Queen originale. Et ça, je pense que cette dette-là, cette dette-là, elle est à la fois, bon, c'est une dette symbolique, c'est une dette stylistique, et c'est une dette, bon, freudienne à bien des égards, parce que avec cette référence-là à Psycho, curieusement, c'est une dette qu'on n'aura jamais fini de payer dans tout le slasher, et c'est très étrange parce que souvent, c'est une dette, il y a quelque chose dans les Friday the 13th, entre autres, c'est presque de la veulerie, c'est-à-dire comment on copie, on n'arrête pas d'en revenir dans les deux premiers à Hitchcock, donc le rapport à la mère dans le Friday the 13th, bon, on sait, spoilers, mais tout le monde sait ça, là, mais donc, dans l'idée que ça soit Pamela Voorhees, la tueuse, dans le premier Halloween, donc c'est cette espèce de rapport de la mère au fils, dans le fait que dans le deuxième, où c'est bel et bien Jason qui tue, tout à coup on découvre à la fin l'espèce de mausolée que le tueur a érigé à sa mère, donc il y a quelque chose d'assez fascinant dans le fait qu'on a cette espèce de rapport-là, et pour moi qui va être à la fois la gloire et la source de décadence du slasher, qu'on est à la fois dans la répression de la sexualité, et ça j'ai jamais trop compris pourquoi c'était Carpenter qui avait inventé cette figure-là, tout à coup, d'un tueur qui est fondamentalement puritain, en fait. Et ce qui est une drôle d'idée, parce que ça correspond pas, bien sûr, à la psychopathologie, ça correspond pas déjà à ce qu'on commence à découvrir à l'époque des tueurs en série, c'est-à-dire ce tueur qui est une machine et qui est aussi une machine à punir, hein, donc qui est une sanction, un châtiment terrible, un châtiment ambulant. Et donc, qu'on va reprendre, mais bien sûr, qui va toujours nous ramener à, bien sûr, ce qu'il essaie de cacher, donc cette espèce de refoulé freudien qui est toujours là, donc dans le reste de la série chez Carpenter, avec qui devient un drame familial plus on avance, à partir du moment où dans Halloween 2 on introduit cette idée très étrange, mais quand même sur laquelle on pourrait faire pas mal de millages, que dans le fond, Michael Myers est là pour tuer Laurie Strode, qui est sa nièce. C'est bien sa nièce, oui, c'est sa nièce. Oui. Non, c'est sa sœur. Pardon, c'est sa sœur. Donc, et c'est ce qu'on révèle. Tu le savais pas, Hélène Bonte. Donc, dans Halloween 2, c'est l'idée, et on va faire dans toutes les suites cette idée que Michael Myers, pour une raison X, ne se contente pas de vouloir tuer le père, mais veut tuer absolument toute sa descendance pour toutes sortes de raisons. Chez Jason Voorhees, on est un peu dans une logique semblable, non pas tournée vers son propre sang, mais va venger son propre sang à l'infini. Et je pense qu'un des grands chefs-d'œuvre oubliés, ben pas si oublié que ça, mais intéressant du slasher film un peu plus tard, ça va être le fameux Sleepaway Camp, où tout à coup on passe complètement ailleurs, c'est-à-dire au lieu d'être dans une espèce de refoulé.
Quel final.
La finale parfaite de film d'horreur, faut que tu ailles voir ça. Oui. Mais où finalement on est dans ce jeu où tout à coup l'homosexualité du père, la transsexualité, tout est exploré et mis en relation autour de la figure du tueur. Et de la Final Girl qui deviennent, bon, à peu près fusionnées dans ce grand chef-d'œuvre du film d'horreur.
Merci beaucoup. Merci, Samuel. Moi, j'ai appris plein d'affaires. Mais justement, tu parlais du puritanisme de Halloween, puis en regardant les films que vous m'avez recommandés, messieurs, They Live, il y a quand même quelque chose de très différent, parce que dans They Live, il y a manifestement une grosse critique de l'aspect très corporate des États-Unis, donc il y a une espèce de mon Dieu, de peut-être anticapitalisme est beaucoup trop fort comme terme, mais il y a quelque chose de l'ordre de ça. Puis c'est pourtant, tu sais, c'est ça, c'est le même réalisateur, puis c'est un peu de ça dont tu vas nous parler, mais pas des livres, mais qu'est-ce qui est caché dans les films de Carpenter et comment tout ça, il montre tout ça, Boris.
Oui, puis vous allez me dire que c'est pas mal tous les films d'horreur qui parlent de ça, mais chez Carpenter, c'est un thème récurrent, et c'est même un fil conducteur qui relie la majorité de ses films, et il y a souvent aussi, c'est un concept qui est souvent utilisé à des fins politiques, comme par exemple, le héros de Carpenter, c'est un héros subversif, parce qu'il vient de la marginalité, il est souvent criminel, c'est un homme musclé, mais qui est complètement décalé par rapport à son époque aussi.
Là, on parle plus d'autres films, on parle plus d'Escape from New York,
c'est ça. Donc, je t'inquiète pas, je vais en parler, mais si les 80s ont vu l'essor du film de gros gars musclés, c'est aussi l'âge d'or du héros carpentanien qui, justement, Jack Burton dans Big Trouble in Little China, Snake Plissken de Escape from New York, Frank et Nada de They Live, qui sont des criminels, qui sont, à part Jack Burton qui est un camionneur, mais qui sont des criminels, qui sont issus d'un milieu criminel, qui sont des marginaux, et Napoleon Wilson aussi, qui
sort d'un film des années 70, Assault from Prison 13, mais qui est un assassin avec des principes et avec un cœur d'or. C'est un peu bizarre. Puis c'est un espèce de personnage mystérieux qu'on saisira jamais vraiment. Qu'est-ce qu'il veut dire? Puis il veut jamais expliquer pourquoi il s'appelle Napoléon. Il dira, je vais le dire au moment de ma mort. Je vais le dire au moment de ma mort parce que c'est la mort qui révèle son identité. Il m'aura pas, donc on le saura pas. Donc c'est des criminels, mais c'est des gros muscles, mais ils ont la morale à la bonne place quand même, plus ou moins. Leurs ennemis, c'est des représentants du statu quo. C'est des gens de pouvoir qui sont supposés représenter la loi et la justice, mais qui finalement c'est totalement décalé, puis ça devient des espèces de dystopies comme Escape from New York, où on décide de mettre tous les criminels dans un Manhattan emmuré, puis finalement ça devient une espèce de dystopie qui se gère tout seul, de monarchie dans Isaac Hayes et le roi.
Oui.
D'ailleurs, c'est qui d'autre?
qui d'autre, Isaac Hayes, pour être le Duke of New York? D'ailleurs, Jack Burton, je tiens juste à parler de Jack Burton, qui justement, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'antithèse par excellence du héros, parce que il y a l'arrogance, l'espèce de nonchalance, le franc-parler d'un héros typique, mais c'est un imbécile, ce qu'il dit n'a aucun sens.
Et assez lâche, en plus. Oui, c'est-à-dire, il passe le film à essayer de sortir de cette histoire-là, finalement.
Oui, puis il manque plusieurs scènes d'action parce qu'il se fait assommer, parce qu'il tire dans le mur, puis il y a un bout du plafond qui lui tombe dessus. C'est ça, il est trop lent pour se lancer dans la bagarre. Des fois, il est complètement dépassé par les événements. Puis d'ailleurs, il y a un des personnages de Assault from Prison 13 qui dit « There is no heroes anymore, only men who follow orders. » Et les héros de Carpenter sont des héros parce qu'ils ne suivent pas les ordres.
Oui, alors, ben, ça dépend. En fait, moi, je pose une question parce que je suis très naïf devant tout ça. Dans Escape from New York, Plissken suit les ordres.
Ben, il suit parce qu'il est obligé, mais finalement, il désobéit parce qu'il détruit le... Spoiler, là, mais pour un film de
20 ans. C'est correct qu'on
était à mais il détruit le tape. Puis,
oui, à la fin, oui, il détruit le tape.
Puis ça, il suit, en fait, pour sauver sa vie.
Oui, parce qu'il y a
un sinon, il y a une tête qui explose. Hein.
Oui, c'est ça. Assez important, oui.
Donc, la menace invisible qui sort de l'ombre, justement, c'est le statu quo qui le cache, comme Dave, dont Philippe va en parler plus tard, mais qui nous apprend que le capitalisme est une conspiration extraterrestre qui vise à garder les hommes dans la soumission et dans la faiblesse et endormis, qui explique d'ailleurs le titre du film, parce que c'est eux qui vivent et nous qui dormons. The Fog qui met en scène un passé qui vient se venger des crimes qui ont été commis il y a 100 ans. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que c'est la brume qui est supposée cacher qui révèle ces esprits vengeurs. Puis évidemment, Escape to New York dont j'ai parlé. Mais ce dont je voudrais parler aussi, c'est le rôle subversif que le cinéma peut jouer dans cette domination du statu quo. Il y a une citation de Prince of Darkness que j'aime beaucoup, qui est l'une des premières tirades, si c'est pas la première tirade du professeur de physique quantique, qui dit « We assume time is narrow because it is as a clock. One second is one second for everyone. Cause precedes effect. Fruit rots, water flows downstream, we are born, we age, we die. The reverse never happens. None of this is true. Say goodbye to classical reality because our logic collapses on the subatomic level into ghosts and shadows. » Quelle belle image.
C'est
hein?
Magnifique.
C'est vraiment beau. Puis c'est ça que fait le cinéma d'horreur aussi. Et d'ailleurs, il y a une scène, à 17 minutes, je pense, il y a une scène dans Prince of Darkness qui, je trouve, représentative de tout son cinéma. C'est une scène de peut-être 5 secondes. Hein. C'est un plan où l'un des personnages regarde la lune. Et on voit un peu quelque chose qui cache, qui obstrue, mais vraiment vaguement, là, on le voit à peine, puis ça ressemble à un nuage, c'est pratiquement transparent. Puis la caméra focus, puis finalement on voit que c'est une grosse feuille noire qui cache la majorité de la lune au cinéma. C'est la caméra qui révèle ce qui se cache pourtant en pleine évidence. Dans le film, plusieurs personnages reçoivent des messages du futur pour tenter d'éviter l'apocalypse. Ces messages sont transmis dans le rêve, dans l'inconscience. parce que c'est seulement dans la conscience qu'on peut accéder à ces messages. Ces vidéos sont filmées comme juste avec une caméra vidéo, donc comme des bootlegs, des vidéos pirates. C'est la clandestinité du message. C'est aussi un message qui est un peu crypté, on l'entend mal. La voix est déformée par la transmission, l'enregistrement est de qualité discutable. On peut juste y accéder par l'inconscient. Et d'ailleurs, le professeur de physique, quand il se fait demander à quoi il a rêvé, il se fâche, il dit « c'est mon inconscient, ça n'a pas à voir à savoir ça ». Puis finalement, ça devient un inconscient collectif parce que c'est ce qui guette le futur de l'humanité, puis c'est ce qui peut sauver l'humanité. Et chez Idealive aussi, il y a un peu ça, parce que c'est avec les vidéos clandestines qu'on tente de combattre le statu quo par opposition au signal des antennes des grandes chaînes médiatiques, qui, eux, envoient le signal qui nous empêche de démasquer les messages subliminaux qui sont sur les pancartes. Donc, la résistance tente de le faire par des lunettes, donc de changer notre regard pour nous dévoiler la vérité. Et c'est pas pour rien que, pour revenir à Halloween, qui commence par un zoom sur la citrouille, puis sur l'œil de la citrouille. Et ensuite, la première scène, comme on l'a dit, c'est un point de vue du tueur. D'ailleurs, on commence avec le regard de Michael Myers, qui est la personnification du mal. Et il y a une scène que, la première fois qu'on voit le film, c'est une scène qu'on passe un peu à côté, c'est pas vraiment important, c'est quand il parle dans la classe avec le professeur, et on nous présente le destin comme quelque chose de très concret, quelque chose avec lequel chacun doit gérer à sa manière. Donc, on va dire que, plutôt que d'être un concept religieux, c'est, je paraphrase pratiquement, là, c'est, le destin peut être vu comme un élément naturel, comme le feu, la terre, l'eau, l'air. Et je vais citer « Fate is immovable like a mountain. It stands where man passes away. Fate never changes. » Le destin est immobile comme une montagne. Il ne change jamais alors que l'homme s'efface. Donc, la peur, c'est comme un rituel collectif, comme un exorcisme de la peur ultime qui nous attend tous, la mort. Et la première chose qu'on entend à Halloween après la musique, c'est le chant des enfants qui est aussi comme un rituel qui chante une espèce de petite comptine d'Halloween qui parle de chats noirs, de gobelins, de sorcières, d'esprits, du fantastique et du folklore et aussi du surnaturel qui révèle un peu ce folklore qui nous permet d'exorciser la peur de la mort. C'est pas pour rien que ça se passe à Halloween. Après ça, on a fait plein de films thématiques, de slasher thématiques sur des Thanksgiving. Non, Thanksgiving, c'était une joke, mais... Oui. Halloween, qui est la célébration de la mort, qui est aussi le jour où les esprits peuvent venir terroriser les vivants. C'est pas innocent d'ailleurs aussi que deux films que les personnages du film Halloween regardent pendant toute la nuit, c'est des films d'horreur qui sont assez importants pour l'histoire du cinéma, The Thing from Another World et The Day the Earth Stood Still, qui sont pas tellement des films effrayants, mais qui symbolisent des peurs de leur époque.
Ben, important pour Carpenter lui-même aussi, qui est un fan de Hawks fini et qui va refaire évidemment de Thing.
Oui, j'avais remarqué, j'ai vu Halloween après avoir vu The Thing.
Oh, oui, c'est toujours drôle.
The Thing, j'aime, wow, quelle intertextualité parfaite.
Oui, c'est drôle. C'est des films de genre qui symbolisent vraiment cette peur d'époque, le macartisme, la peur de la guerre froide, l'annihilation nucléaire. Ça parle aussi de comment nos rituels nous permettent de parler de ça et de dealer avec ça. C'est pour ça que Mike Myers est la personnification de la mort comme concept collectif, comme une destinée qui peut pas être arrêtée, et c'est pour ça qu'il est pas arrêtable, c'est pour ça qu'il revient tout le temps et qu'on le tue et qu'il revient. Et je pense à la scène où Dr. Loomis il regarde, il raconte comment il voyait Michael Myers regarder le vide, et comme s'il fixait ce jour du 31 octobre 1978 et qu'il attendait que ça arrive, il attendait juste un déclic. Ce déclic-là, justement, c'est la date, mais aussi cette espèce de moment.
Et ça, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que s'il y a une présence qui ne revient pas, tu vois, qui ne revient pas beaucoup dans les slashers, dans Halloween, c'est le docteur, justement. C'est la figure du savant, la figure de celui qui a compris. Donc, on va reprendre dans la série d'Halloween, mais que lui ramène souvent, c'est-à-dire qu'en dehors de dire, même si on ne veut pas faire de Carpenter un maître de l'horreur, parce qu'il n'a pas fait que de l'horreur, ben, le thème que tu identifies, c'est bien ce qui lie tout son cinéma, parce que ce qui le caractérise beaucoup, c'est qu'il n'y a aucun film où il n'y a pas cette idée d'une espèce de retour d'un refoulé religieux slash historique slash politique qui aurait été enfermé là et qui fait retour. Et je pense que on en parlait, c'est-à-dire que que le Dr. Loomis, que Donald Pleasance reviennent entre autres dans Prince of Darkness, dans un rôle, ça pourrait presque être le même, mais sur un mode de religieux. Dans ce cas-là, on est toujours dans ces personnages qui sont d'une certaine façon condamnés à la découverte, et il y a la scène fascinante dans des livres où pratiquement ils se battent quand j'ai juste Roddy Piper dans la tête, absolument mettre les lunettes à l'autre, et là il y a une scène de lutte.
Ça, je m'en parlais pas mal.
Fascinante.
Ouais. C'est la plus longue et la plus grande bagarre du film, c'est 6 minutes.
Pourquoi mettre des lunettes, je veux pas le savoir.
Puis à chaque fois que j'écoute ce film-là avec des amis, ils sont tout le temps comme, ben voyons donc, ben là, ils se battent encore, ben là, ça finit plus. C'est tellement drôle.
Ouais, c'est pas mal ma réaction.
Mais moi, je sais que la première fois que je l'ai vu à 12 ans, c'était la scène, c'était pas le deal breaker quand même, non. Mais tu sais, tu te sors de là, tu te dis, écoute, ben, j'ai lu des comptes rendus où ils disent, écoute, c'est un grand film, sauf pour ça, mais maintenant, moi, j'en prendrais plus. Non.
Ben oui!
En même temps, ça fait partie de ce que je disais, d'un peu de la liberté du cinéma de Carpenter, qui a moins dans Halloween, qui est un film tight, mais que ces bouts-là qui dépassent, tu sais, puis dans des livres, il y a la réplique que n'importe qui aurait coupé, mais quand il rentre dans la banque, puis qu'il arrive, puis il dit « I came here to chew bubblegum and kick ass, and I'm all out of bubblegum », tu dis, c'est du cabotinage.
C'est improvisé, ça.
Mais c'est tellement énorme que t'es obligé de mettre ça dans le film.
C'est, non, je connaissais cette réplique-là avant de voir Deliv.
Bon, on connaît plusieurs choses de Deliv avant de le voir souvent.
Je savais que c'est Roddy Piper
qui est décédé récemment. Avec tous les messages associés à la pub. Là. Moi, j'en vois au cégep à chaque année qui arrive avec ça, en sachant peut-être pas toujours d'où ça vient.
Mais en ce moment, il y a une campagne de pub pour 1984 où on voit des panneaux dans le métro qui s'écrit comme « Acheter, obéissez », genre justement.
Puis il y avait des pubs autour de l'élection américaine de 2008 aussi. Obama, l'espèce d'image Hope d'un artiste justement qui s'était servi de cette
iconographie-là.
Puis ça fait son chemin quand même. Puis ben je vais rebondir parce que justement, c'était exactement parce que je vais parler de la scène de bagarre tantôt, mais c'est pour moi... Puis je suis d'accord avec toi que c'est une sorte d'emblème en même temps du cinéma, du débordement de Carpenter, où là où on s'attend à ce qu'il s'arrête ou à ce qu'il soit peut-être plus subtil, il va franchir la ligne quand même.
Ouais.
Puis c'est sûr que c'est quelque chose qui peut déplaire à ceux qui ne sont pas si habitués à la série B, mais comme une tendance à se vautrer dans son plaisir en même temps. T'sais. Puis un plaisir que certains diraient coupable, mais que moi, de voir par exemple le lutteur Roddy Piper se battre dans un film... On se dit, ça va arriver à un moment donné, t'sais. Donc là, ça dure 6 minutes. C'est vraiment inséré, tu sais, dans le thème, en plus. Donc, c'est ça, je vais parler un petit peu de Deliv. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit, parce que je pense qu'on se rejoint sur plusieurs choses. C'est un film, qui est sorti en 88, qui est de son temps. Je veux dire, c'est une critique du capitalisme, Hélène, comme tu l'as dit, d'une façon quand même très champ gauche. Je veux dire, c'est série B, voire série Z par moment. En même temps, il y a un côté, moi, qui me fascine en tant que prof de philo, je ne vais pas revenir là-dessus tout le temps, mais qui, un peu hors du temps, qui renoue avec des vieux thèmes.
Oui.
Puis justement, tu sais, quand j'ai vu que Boris voulait parler de sortir un peu le monde qui est caché, c'est présent dans plein de films de Carpenter, puis c'est très, très présent dans celui-là, bien sûr. Puis, tu sais, je reviendrai peut-être sur deux, à mon avis, il y a deux scènes archi-classiques dans ce film-là. C'est des morceaux de bravoure du cinéma de Carpenter en général, puis j'oserais dire du cinéma en général. La bagarre, je vais la garder pour tantôt. Première scène, c'est quand il met les lunettes pour la première fois. Ça aussi, c'est une longue séquence. Puis moi, quand je la montre à mes étudiants, je la montre au complet, c'est 9 minutes au moins. Puis là, il y a du débordement aussi, parce que, il se promène, il met les lunettes une première fois, et puis il commence à déchiffrer, ce qui est caché sous la pub, des pubs bien inoffensives, insignifiantes, du genre voyage dans le sud, vêtements pour hommes, c'est des injonctions idéologiques d'obéir, de rester endormi, justement, comme Boris le rappelait tantôt. Et là, vraiment, c'est un 9 minutes de découverte où... enlever et remettre les lunettes, puis à chaque fois montrer les deux points de vue, ça doit se passer au moins 20 fois dans cette scène-là. Puis justement, une fois aurait été suffisante peut-être pour qu'on comprenne le concept, mais il y a comme le goût de nous le montrer là, plein de fois. Quand il feuillette aussi les revues, là, c'est plus juste les pubs, c'est vraiment les articles. On sous-entend qu'il y a des articles là-dedans qui sont censément sérieux, mais qui passent le message sous-jacent, le message caché aussi. Et jusqu'à la découverte, c'est pas seulement les messages, mais les êtres. Le titre français m'a toujours fait sourire un peu, parce que c'est là-dessus qu'on met l'accent. Invasion Los Angeles, c'est un peu racoleur aussi. Ça, c'est sûr que ça connecte avec... c'est un thème fréquent, je pense, dans l'histoire de la science-fiction du fantastique. Le héros qui, soudainement, découvre que tout ce qui semblait solide et sûr autour de lui s'écroule. et qui peut avoir différentes réactions. Il peut, c'est assez rarement juste de la joie. Là, tu sais, de dire, écoute, je suis content.
Ouais, Boris avait raison de souligner, c'est important, je pense, dans ce cas-là, par rapport au cinéma réganien, parce que c'est l'époque du cinéma réganien, que c'est important pour moi que ça soit un marginalisé dès le départ. Donc, c'est quelqu'un qui est déjà rejeté, tu sais, qui a déjà pas... qui est déjà pas partie prenante de ce monde-là, finalement, à bien des égards.
Qui n'a même pas de nom non plus. Tu sais, comme Boris l'a mentionné, c'est Nada qui veut dire rien. Dans le générique de fin, tu apprends ça. Puis tu sais, c'est vraiment un everyman. C'est par lui que la révélation se passe. Ouais. C'est absolument pas un hasard. Donc ça, dans l'histoire de la SF, ça se passe souvent. Puis bon, il y en a qui servent de la série Matrix ou des choses comme ça dans les œuvres des 20-30 dernières années. Mais moi, il me semble que ce film-là, cette scène-là aussi, c'est vraiment un moment d'anthologie pour ça. Et la fameuse bagarre, je sais qu'on en a parlé, mais je peux pas ne pas en parler.
Non, parlons-en, c'est de la lutte.
Ben oui, c'est ça, c'est un lutteur, là, juste pour... repréciser ça, c'est Roddy Piper, feu Roddy Piper qui est mort l'année passée.
Quoi?
Oui, il est mort, je pense, l'été 2015 ou début l'automne, qui est fantastique là-dedans. Moi, j'imagine pas quelqu'un d'autre, franchement. Mais il est habitué, bon.
Ben, c'est un acteur.
Ben, c'est ça, c'est pas
si. Un lutteur est un acteur.
Il y en a qui avaient l'air d'être surpris par ça, mais il me semble que c'est un peu étrange d'être surpris. Donc, un 6 minutes pendant lequel, on l'a dit, il essaie seulement de convaincre son ami, donc quelqu'un qui devrait avoir confiance en lui un petit peu. Puis c'est un ami qui vient de se faire, quand même. Il n'arrive pas dans le film entouré, c'est un vagabond un peu au début. Et 6 minutes pendant lesquelles il n'est pas capable. Puis à la fin, ce qui est intéressant dans cette scène-là, c'est que bon, il finit par en l'ayant knocké un petit peu, en l'ayant faibli physiquement, il lui fout les lunettes sous les yeux, il prend, puis il prend les épaules vraiment pour le mettre devant ce qu'il ne veut pas voir. Et là, bon, il comprend, il voit quand même quelques extraterrestres qui le confondent un peu. Mais ça, pour moi, justement, c'est un... Puis ça, il y a beaucoup de philosophes qui ont rebondi là-dessus. C'est Zizek, entre autres, il voit comme une sorte de la difficulté, il faut se battre pour se libérer de l'emprise, tu sais, de ces idéologies-là qui sont si fortes, qui n'auraient pas passé si c'était juste comme une espèce de réalisation heureuse et joyeuse. Puis ça connecte dans ma tête avec un paquet d'expériences de pensée de philo aussi, là, la découverte du monde caché, tu sais, tout ce qui... le malin génie de Descartes, où là, subitement, tout ce qui était solide pour toi, l'allégorie de la caverne de Platon, toutes ces histoires-là, qui là, ici, passent par... Puis ce que j'aime aussi, puis qu'on parlait de Prince of Darkness avec les bootlegs, tu sais, dans cette scène de bataille-là, la fin de la scène, il y a un paquet de poubelles. Mm-hmm. Ça, ça a interpellé quand même une couple de gens qui ont regardé ça, parce que, tu sais, il y a un côté, quand on dit trash, habituellement, on y va plus métaphoriquement, mais là, tu sais, c'est sans dire que c'est dans la lie de la société. C'est des gens qui ont un statut absolument précaire, des marginaux. C'est là que la révélation se fait. C'est là que quelque chose se découvre. Puis ça, pour moi, il y a un lien. C'est sûr que, on peut dire avec Twilight Zone un peu, mais avec Philip K. Dick, pour moi, c'est son film peut-être le plus dickien là-dessus. T'sais, je pense à un roman comme Valis de Dick, où là, vraiment, il y a l'espèce de notion de trouver ces révélations là où on s'y attend absolument pas. C'est dans des disques oubliés ou dans des œuvres culturelles populaire, mais méprisé par l'élite ou des choses comme ça. Puis il y a une description aussi que je trouvais le fun par le romancier Jonathan Leighton. Il dit « A film about cheapo revelation and about vision », c'est sûr, avec les lunettes. Parce que ça, il fait une référence là-dessus à la lumière de rumeurs à l'effet qu'on pourrait faire un remake de Deliver en passant par autre chose que les lunettes. Tu sais, en employant, je sais pas, une clé USB ou quelque chose comme ça.
Un cellulaire?
Oui, mais lui, il trouvait les thèmes que tu perds, parce qu'il y a quelque chose, justement, si on disait les bootlegs, quelque chose qui est très... C'est un côté trash, un peu un côté série B, voire série Z, que la révolution passe par là. Puis là, la tentation est là, des fois, d'arrondir les coins quand les gens qui voudraient faire des remakes de Carpenter, j'imagine. C'est justement d'étouffer le débordement, de rendre ça un petit peu plus streamliné, alors que c'est clair que dans Halloween et dans quelques autres films, il y a comme une maîtrise aussi... de ce type-là, mais dans un film comme Deliv, il y a comme une espèce de surenchère dans la recherche qui va des fois jusqu'au fond là, pour trouver des trucs. Puis je pense que la postérité, en guillemets, des icônes, des images de ce film-là montre un peu ce caractère-là. Tu sais, c'est dans Street Art là, qu'on trouve sur tout ça. Puis tu sais, c'est un film en même temps qui se situe un peu dans un entre-deux. Tu sais, il y a des thèmes vraiment sérieux. Tu sais, s'interroger ce qui est vrai, ce qui est faux, le réel, les apparences, c'est comme sérieux. Mais présenté quand même sous un visage qui est assez pittoresque, puis comme je disais, qui boude vraiment pas son plaisir. Hein. Donc, comme cet entre-deux-là qui est maintenu non seulement dans le film lui-même, mais dans ce qu'on en fait maintenant. Puis, je serais curieux de voir. C'est sûr que c'est un film qui est assez, je pense, général, un thème assez large pour pouvoir être refait ou être transposable, mais il y a un côté de un peu, je sais pas, un petit peu bargain bin, là, dans, oui. dans, mm-hmm. que si tu perds ça, c'est, puis c'est assez lié, je trouve, même dans la map, là, je veux pas, ça pourrait être une transition aussi vers la musique, mais la musique de Carpenter aussi, on n'est pas, tu sais, dans le maximalisme de ce côté-là, il y a quelque chose qui est assez...
assez contenu, hein.
Mm-hmm. Assez contenu. Tu sais, c'est un langage qui est pas simpliste et simple, là, mais en même temps, on fait beaucoup avec peu, en même temps, puis il y a quelque chose, moi, qui me plaît beaucoup là-dedans.
Oui, il y a toujours été là-dedans, oui. Mais le côté homme orchestre dont parlait Hélène au départ, puis qui est à la fois une façon de garder un contrôle aussi, c'est-à-dire autant finalement ces relations avec Hollywood vont avoir été extrêmement brèves et plutôt tendues, là, donc ça s'est jamais vraiment bien passé. Son seul film qui a vraiment marché à l'intérieur du système, parce que Halloween lui a fait accéder au système, mais ça a été fait avec des bouts de ficelle, c'est Starman qu'on oublie.
c'est vrai.
Volontiers, ça fait longtemps, faudrait que je le revoie par ailleurs, mais tu sais, donc qui a été fait à l'intérieur dans ce cadre-là. Et qui a bien marché, puis après ça, ben ça se complique tout de suite, puis on est toujours dans ce modèle-là. Puis c'est intéressant que tu parles de la récupération par le street art. Et souvent, comme tu dis, moi la référence, je l'ai vue chez des étudiants pendant 2012, pendant 2014 aussi, puis j'étais comme, qui a vu des livres pour vrai? Parce que ce qui... Ben, pas nécessairement ce qui se perd, mais ce qui était fascinant dans des livres, c'est que c'est un film hilarant en même temps. Et donc, et ça fait partie de la joke aussi, le caractère volontairement grossier de la critique sociale là-dedans. Oui, tu dis, tu sais, c'est le gars qui met des lunettes, puis là, tout à coup, c'est la pub
la
de
vision,
la.
Ouais, tu peux pas être la plus pub sur le nez
de maillot de bain, c'est comme obey. Tu sais, ben, OK.
Volontairement kitsch aussi. Oui. Les films de Carpenter, des fois, c'est un peu comme le film de Werewolven. Si tu les expliquerais, tu le raconterais à quelqu'un qui les a pas vus, puis voyons, qu'est-ce que c'est que ça? Ça bannit ça, mais ça marche tellement bien.
Et que finalement, ben, ce qu'on a souvent décrié chez lui, c'est-à-dire d'avoir tout fait, et des fois, tu sais, à la fin, qu'on a fini par le mettre au rencard, on y reprochait beaucoup ses scénarios, mais tu sais, 20 ans plus tard, tu regardes ses scénarios de toute cette époque-là, ben, c'est pas que c'est pas trop pire, mais tu sais, ce que tu lisais, tu sais, The Prince of Darkness, tu dis, écoute, quand est-ce que tu vois des morceaux de bravoure comme ça dans un scénario où tout à coup on mélange, on part un film d'horreur sur la physique quantique, tu sais, un peu kitsch, c'est sûr, mais dans la physique quantique, pareil, tu sais, avec, il y a quelque chose d'assez cool là-dedans, c'est que finalement, c'est comme si tout ce qu'on lui avait reproché était ce qui était devenu le plus influent. C'est-à-dire, au niveau du travail de l'image, puis au niveau de la musique aussi, ben, je pense que tu vas nous amener là, Maxime, mais que finalement, le gros de sa postérité aujourd'hui est musical aussi.
Justement, parlons de ça. Donc, Maxime? Tu veux nous parler de la musique de Carpenter?
Oui.
Ça me tenterait de dire la musique des Carpenters, parce que j'aime beaucoup les Carpenters, mais ça n'a aucun rapport.
D'ailleurs, il y a une joke dans In the Mouth of Darkness où il y a le personnage de Sam Neill qui fait « Oh non, pas encore les Carpenters.
» Ouais, disons que ça serait d'autres choses.
Oui. Bon, on n'a pas le temps d'aller en musique, fait que non. Tu peux... À moi, que
je trouve presque ça plus intéressant d'écouter la musique que d'écouter parler. On va en mettre un petit peu.
On va en mettre un petit peu. Bon, parler. C'est quelle année, ça?
Ça, c'est 2015. Donc,
OK, ça vient de mais ça sonne
pourtant,
tellement as if the 90s never happened.
T'as fait un blitz de films de John Carpenter. Ça sonne exactement comme la musique de ses films, en fait. T'as tous les tropes de ça, qui est même... On a entendu un très court extrait d'Halloween tantôt, mais qui est quand même ça. Pour répéter, on l'a déjà dit un petit peu, mais bon... John Carpenter, en fait, a a composé ou co-composé la plupart de la musique de ses films, sauf certaines exceptions, ce qui est drôle en soi aussi, mais qui est peut-être une discussion pour un autre moment. Depuis 2010, plusieurs éditions de collections ont été rééditées de la musique de ses films, ce qui fait que les collectionneurs de disques sont devenus des grands fans de cette musique-là, en fait, de cette musique instrumentale-là, et ce qui fait que maintenant, il est quasiment plus reconnu pour la musique qu'il a fait et ce qu'il a donné, comme en 2015, cet album-là, de nouvelle musique. On s'entend que c'est pas très loin, ça s'appelle Lost Team quand même, donc on s'entend qu'il aime le cinéma et ça parle de cinéma. Et devant le succès de ça en 2016 est sorti Lost Team 2.
Ah oui, ok.
On se casse pas trop la tête pour les titres. Donc c'est ça, c'est sorti ces deux albums-là de musique entre guillemets radiophonique nouvelle sont sortis sur le label Secret Bond Records, qui est fidèle à John Carpenter, à ce qu'il dit dans ses films. C'est un petit label de New York, donc c'est pas la superstar qui sort.
Ça reste indie, donc ça reste culte.
Ouais, c'est ça. Donc c'est aussi une continuation de cette même philosophie. Évidemment, comment ça sonne, on a fleuri un petit peu tantôt. La musique de Carpenter est critiquée, je dirais, par certaines personnes comme étant peut-être même simple, malgré que le thème de Halloween qu'on a entendu tantôt est très complexe rythmiquement.
Oui, oui, oui.
La plupart de ces musiques sont très simples quand même, et même l'utilisation des premiers synthétiseurs, des synthétiseurs analogues, est très différente de ce que beaucoup de gens maintenant pensent que c'est cette musique-là. C'est-à-dire que John Carpenter lui-même, pourquoi il utilisait ça? C'était simplement que c'était pas cher de pouvoir avoir un gros son.
Okay.
Donc, c'était pas certains fétichistes des machines ou quelque chose comme ça, qu'on retrouve beaucoup maintenant dans les compositeurs qui sont influencés par John Carpenter maintenant. Si on pense à la bande sonore de Stranger Things, disons, qui est directement influencée de ça, on sent le gros fétichisme de tous ces appareils-là. Puis pour plusieurs gens, comme plusieurs des films des années 80 de John Carpenter ont eu un certain succès, John Carpenter, c'est le son des années 80. Plusieurs personnes ne connaissent même pas le nom, mais vont dire ça sonne comme les années 80.
Absolument, c'est ça que je disais.
Comme les films d'action des années 80, ça sonne comme ça, la musique. Et même que, à la fin des années 80, t'écoutes beaucoup de trames sonores et il y a beaucoup de trucs John Carpenter-esque.
OK, ouais.
Surtout que il y a une manière de faire simple et lui l'avait. Il y a d'autres personnes qui l'avaient peut-être pas, qui faisaient vraiment juste simple. Enfin, c'est un art en soi. Pourquoi peut-être qu'il avait cet art-là? Il faut dire que John Carpenter est pas arrivé à son premier film, dit « Ah, j'ai personne pour faire la musique, je vais faire la musique. » C'est quelqu'un, son père était professeur de musique. Il y a eu de la musique autour de lui très longtemps avant qu'il commence à faire les films. Donc, il y avait ce côté-là.
Ouais, c'est ça.
En orchestre, il y avait ce côté-là en partant. Et c'est pour ça que, en commençant ses films, en commençant à rencontrer des compositeurs pour faire la musique de ses films, il y avait toujours un gros doute. Est-ce que je vais donner ça à mon enfant, à quelqu'un pour faire... Tu sais, c'est peut-être la meilleure personne pour composer de la musique qui colle vraiment à ses films. Et comparé à d'autres compositeurs de films, on sent ce suspense-là vraiment dans le thème de Halloween, justement. On sent que ça colle parfaitement un truc orchestral comme c'était un peu la norme. On considère John Carpenter comme un contemporain de Spielberg, de Palma, d'autres gens. Ben, il aurait dû aller vers ça au lieu d'aller vers quelque chose qui est très cérébré, faire la musique de synthétiseur, mais ça aurait beaucoup moins collé au film qu'il faisait, en fait. Donc, maintenant, c'est un peu drôle de dire ça d'un réalisateur, mais maintenant il fait des tournées, il fait beaucoup de tournées. Ce qui est un peu drôle, mais la quantité de musique qu'il peut faire live est assez énorme. Quand on pense à la musique de tous ses films presque,
oui.
Et ces deux albums-là qui sont, ma foi, très bons quand même. Et bon, suite à ça, comme John Carpenter étant un nom, il y a eu des albums remix, il y a eu, même si c'est très près 2015, il y a eu, je pense, comme 5 albums de ces deux albums-là, déjà.
Moi, ça m'a, l'extrait que tu as fait jouer m'a vraiment donné le goût d'aller écouter Lost Theme et Lost Theme 2.
Le titre est vraiment juste. Mmh. On dirait vraiment de la musique de ces films.
Oui.
Que
perdu.
Ça n'a pas marché. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il s'est inventé des films. Puis au lieu des fans, il fait juste la musique.
Puis je pense que d'une certaine façon, c'est là, tu sais, il mesure son impact plus facilement. Tu sais, c'est-à-dire, on voit l'impact. Il y a tout un courant, la synthwave aujourd'hui, l'influence de Carpenter est partout sur les choix de Dinotron, Alaska and Winter. Il y a même un groupe, il y a Carpenter Brute, qui bon, là, c'est carrément un clin d'œil. Ça fait que je pense que c'est assez important. Puis je pense que pour lui, pour une raison X, comme ça lui permet de rentrer des sous, c'est moins amer que l'héritage cinématographique avec lequel il y a parfois du mal à composer. C'est-à-dire, Guillermo del Toro, entre autres, lui avait fait une longue série de tweets admiratifs et a essayé d'entrer en communication avec lui, puis disait que Carpenter veut pas en entendre parler. C'est-à-dire, le fait de vous triper tout sur mes films, vous m'imitez, ben moi, ça rentre pas d'argent à maison, puis ça m'a pas aidé à en faire d'autres. Et je suis toujours aussi paralysé aujourd'hui.
À un moment donné, on lui avait demandé qu'est-ce qu'il pense de toutes ces remakes, de ces films, puis des suites, puis il a dit, ben moi, je vois que je fais rien, puis que les gens donnent de l'argent.
On doit se quitter là-dessus, donc je vous remercie beaucoup Samuel Archibald, Boris Nonveillé, Philippe Saint-Germain
merci
et Maxime Robin. Je m'appelle Hélène Lorrain, c'était l'épisode sur John Carpenter. Je vous conseille de vous abonner au podcast Pop en Stock sur iTunes et de nous donner des bonnes notes, et je vous conseille aussi d'aller sur la page de Pop en Stock, la page Facebook de Pop en Stock, pour donner à notre campagne de sous-financement Mécénat Pop, donc pour redonner l'argent à des personnes qui vont nous faire des bannières, des jingles, des t-shirts, des casse-têtes et tout ça. Merci beaucoup, au revoir.